C'est l'heure du Social Lab sur Inter. C'est avec vous. Salutations, Valère Correa.
Salut, Eric.
À propos ce matin des budgets participatifs.
Oui, tout le monde les connaît, hein. Soit parce que notre commune, département ou région en propose un, soit parce qu'il est de moins en moins rare d'en voir une promotion, d'en entendre parler même. En fait, tout s'est accéléré après les municipales de 2014. Et ça, c'est une tendance qui s'est confirmée depuis 2021.
On va tout de même avoir les idées claires. C'est quoi un budget participatif?
Pour le politologue Yves Saint-Omer, c'est un dispositif qui permet à des citoyens non élus de participer à la conception ou la répartition des finances publiques. Alors on parle en général d'un budget d'investissement de la collectivité autour de 5% qui va être alloué à des projets proposés par des associations ou des citoyens selon le choix donc des administrés par un système de vote. Le montant, le cahier des charges, le mode de décision sont eux cadrés par la collectivité. Puis ce sont les citoyens hein, qui on voit au chapitre. Alors c'est difficile d'avoir un chiffre précis, mais il y aurait sans doute 150 à 200 collectivités qui ont fait le pas de mobiliser donc leurs administrés dans des choix réservés jusque-là aux seuls élus. Et sur le plan technique, les collectivités s'appuient sur ce qu'on appelle des civic tech, pour technologie civique, qui proposent des solutions numériques pour faciliter la mise en place de budgets participatifs. Cap Collectif en fait partie. Pour s'en charger des activités de conseil, Thibaut Dernancourt, c'est déjà une rupture.
C'est une petite dose parfois de démocratie directe dans ce qu'on appelle la démocratie participative, dans le sens où les projets sont choisis par les habitants et sont aussi proposés par les habitants. Et dans ces cas-là, la collectivité et les élus s'occupent d'instruire les dossiers, mais ne portent pas de regard sur est-ce que oui ou non le projet il est bon ou pertinent. Les élus ne sélectionnent pas les projets, ils font simplement une analyse de leur recevabilité par rapport aux critères du règlement qui ont été donnés. Donc dans ce sens-là, c'est donner du pouvoir décisionnel aux habitants. Il n'y a pas une commission ultérieure qui arrive après pour vérifier que les habitants ils ont bien voté. Il n'y a pas un jury qui fait un second avis après le vote des habitants pour pouvoir dire « bon, ok, vous avez mis ce projet-là en 1 ». Mais on a bien réfléchi avec les collègues et on va plutôt le mettre en deux parce que ce projet-là, on ne l'aime pas. C'est là le grand bénéfice ou la grande rupture, on va dire, avec les autres exercices que représente le budget participatif, c'est cette vocation très concrète et décisionnelle. Souvent, certains disent, hein, c'est vraiment « vous proposez, vous décidez », c'est un peu le slogan qui est repris souvent pour essayer d'expliquer le budget participatif. Et c'est ce qui explique, à notre sens, son succès aujourd'hui.
Valère, le budget participatif dans une collectivité locale, ça concerne quel type d'investissement?
Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est très vaste, en fait. Ça peut être l'aménagement d'une rue à l'échelle d'un quartier, la création d'une aire de jeu, la mise en place de fontaines à eau, du moment que ça entre, en fait, dans le cahier des charges. Hein. Le principe se résume ainsi. Il a dit, vous proposez, vous choisissez. Nous finançons et nous réalisons. Un enjeu majeur est donc bien sûr la sincérité des votes dans une société où voilà, il y a un peu de méfiance quand même sur la fiabilité des outils numériques hein, et dans certains cas à juste titre. Alors pour Thibaut Dernancourt de Cap Collectif, rien n'est parfait, mais les garanties essentielles sont bien là.
Oui, vu au maximum. On ne pourra jamais garantir une sécurisation du vote absolue et totale. Ce qu'on peut par exemple aujourd'hui garantir, c'est bien qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut participer par compte, par son email. On peut aller un peu plus loin, c'est ce qu'on fait nous avec l'utilisation de France Connect qui vous permet de vérifier qu'une personne qui annonce son identité est bien celle-là. Le seul risque que vous avez, c'est assez paradoxal, c'est que plus vous augmentez le niveau de sécurité de votre vote en ligne, plus vous augmentez les contraintes pour les utilisateurs. Ça a un effet mécanique, c'est que ça diminue le nombre de participants. Si ça diminue le nombre de participants, vous n'avez que les plus motivés qui participent. Et là, du coup, on entre dans une phase où on confond les phénomènes de mobilisation, c'est-à-dire un porteur de projet qui fait son max et qui fait de la pub pour son projet parce qu'il a envie de gagner sur son projet, qui sont droit le premier, et avec des phénomènes de triche où on va considérer qu'en fait, il y a eu des manipulations.
Et une dernière précision, Valère, ce budget participatif, ça concerne plutôt les grandes collectivités.
Ouais, clairement, mais ça semblerait bouger, notamment grâce à des tarifs attractifs de ces civic tech. Cap Collectif m'a par exemple dit avoir un nouveau client, une petite ville de 1000 habitants, donc la tendance est sans doute aussi vers ces petites collectivités. Et puis comme d'habitude, vous le savez, l'interview en longueur de Thibaut Dernancourt, chargé des activités de conseil chez Cap Collectif, vient d'être publiée, c'est sur l'infodurable.fr.
Et votre chronique, Valère Correa, le Social Lab, c'est évidemment sur franceinter.fr.